dimanche de Pentecôte. Alors, on va lire ce texte que presque à chaque fois on relit au dimanche de la Pentecôte. Pentecôte. Hein, des fois, je me demande si on sait encore ce que ça veut dire la Pentecôte. Hein, moi, dans mon voisinage familial proche, il y a des personnes qui savent pas, même si on leur a déjà dit ce que c'est Noël, savent pas trop ce que c'est Noël, ils savent pas ce que c'est Pâques. Donc, j'imagine la Pentecôte, ça doit vraiment être un mot venu d'ailleurs. Et je crois que si on faisait un sondage comme ça et qu'on demandait à des enfants et tout de dire un petit peu, tiens, c'est quoi la fête de la Pentecôte? Je pense qu'on aurait des réponses bizarres, hein, avec Pentecôte, c'est vrai qu'on entend Pentagone, 50 jours après la fête de Pâques, la mort et la résurrection du Christ. Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la naissance de l'Église. L'Église primitive naît, trouve sa source, trouve sa puissance, sa force, au moment où l'Esprit de Dieu est envoyé et au moment où l'Esprit de Dieu habite parmi les disciples et les apôtres. On va lire un texte, mais d'abord, on va prier si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, qui suis-je? Qui sommes-nous pour parler de ta parole, Seigneur? Sinon, ce qui nous a encore été rappelé ce matin, que nous sommes tous au bénéfice de ta grâce, pauvres mendiants, petits enfants qui nous attendons à toi et qui mettons toute notre espérance dans ces promesses que nous venons encore de répéter et de relire. Nous savons, Seigneur, que ce que tu as accompli pour nous est inestimable et sans prix. Nous savons que tu nous as gardés au bénéfice de ta grâce. Nous voulons maintenant cheminer avec toi, apprendre encore, apprendre et nous laisser guider par toi. Seigneur, visite-nous tous, chacun, ce matin, et en ce temps de Saint-Esprit que nous célébrons, qui a été envoyé une fois pour toutes, et au bénéfice duquel tu nous as mis, Seigneur. Nous te prions de renouveler encore notre intelligence, de renouveler encore nos projets de vie, de renouveler encore nos décisions, Seigneur. Amen. Alors, on va lire ce passage qui se trouve dans le livre des Actes. C'est au chapitre 2 du livre des Actes. On va lire à partir du verset 14. Donc, on est là le matin de la Pentecôte à Jérusalem. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Il y a eu du vent, il y a eu de la tempête, il y a eu du bruit. Et puis, tout à coup, ces gens qui étaient là, qui étaient des disciples, qui se cachaient un petit peu, qui attendaient dans la prière ce qu'on leur avait demandé d'attendre, se lèvent, commencent à parler dans toutes les langues possibles de tous ces visiteurs qui sont là, juifs, qui sont revenus à Jérusalem pour une certaine fête. Et c'est la surprise. On se demande, c'est qui tous ces gens qui parlent comme ça dans toutes ces langues? Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre se lève et qu'il fait ce discours à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là que vous voyez ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans le haut du ciel, des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce grand jour glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez les paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qui a écrit ce psaume. Il est mort, il a été enseveli, et son sépulcre, il est toujours là, il existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. En fait, c'est la résurrection du Christ qu'il avait annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Car David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, « Hommes, frères, mais qu'allons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Jusqu'ici, la lecture de ce matin. Parlant de Pentecôte et en relisant ces textes, je suis impressionné par Dieu, souverain maître de l'histoire. Dieu préside à tout, à chaque moment, à chaque circonstance. Si ce jour-là, il y a beaucoup de gens à Jérusalem, c'est simplement parce que déjà Jérusalem, c'est une fête. Si il y a tous ces juifs et ces prosélytes qui sont venus là-bas, c'est déjà parce que c'est une fête. C'est la fête de la moisson. La fête de la moisson, elle est écrite, elle a déjà été instituée par Dieu. Dans le Lévitique, dans le Deutéronome, il y a 2000 ans avant le Christ, elle est là, elle est écrite. On savait que après 50 jours passés d'une autre fête, qui était déjà aussi chez les Juifs, écrite, décrite dans le détail, on devait fêter les bénédictions que Dieu donnait dans le cadre de la moisson. C'est pour ça qu'il y a tant de monde. Hein, l'État d'Israël à ce moment-là, le peuple juif, il est sous domination romaine à cette époque-là. Et donc, c'est une grande fête de joie que les gens veulent par identité nationale fêter. Ils reviennent pour fêter la fête de la moisson. Et cette fête de la moisson, comme je dis, c'est 50 jours, donc c'est une sorte de Pentecôte, 50 jours après une autre fête. Et l'autre fête, c'est la Passa. La Pâque juive. La Pâque juive, mais non, mince. Donc, il y avait 50 jours avant une autre fête qui s'appelait aussi la Pâque. Oui, oui. Il y avait la Pâque 50 jours avant. Celle que Jésus a célébrée avec ses disciples au dernier repas. J'ai ardemment désiré passer cette Pâque avec vous, cette dernière Pâque. Et c'est au cours de cette dernière Pâque, juive, la Passa. Mais c'était quoi la Passa? C'était la libération du peuple juif de l'esclavage de l'Égypte. Tous les signes, le combat entre Dieu et Pharaon pour que Dieu libère son peuple. Et le signe ultime, maintenant, dit Dieu, puisque tu ne veux pas libérer mon peuple de l'esclavage, alors je vais envoyer l'ange de la mort qui va massacrer tous les premiers-nés dans toutes les familles et dans tout votre bétail. Mais, en ce qui concerne mon peuple, vous prendrez un agneau saint, sans tache, sans défaut, vous l'égorgerez, vous prendrez de son sang, vous le mettrez sur le poteau de votre porte, et là, lorsque l'ange de la mort passera, il regardera et il évitera toutes les familles où le sang de l'agneau immolé sera versé, marqué sur le linteau. Waouh ! Dieu maître de l'histoire, c'est à la même Pâque que Jésus prend le pain, comme nous venons de le célébrer, prend le vin et dit « Ceci, mes amis, est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Pourquoi ? Pour la nouvelle alliance. » Pour la libération du pays d'Égypte et de l'esclavage d'Égypte? Non, pour la libération, une fois pour toutes, de l'inimitié qu'il y a entre Dieu et les hommes, par le péché, par la séparation. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous faites ça, vous annoncez cette nouvelle alliance en mon sang, vous annoncez les promesses que nous venons de relire, que vous avez, auxquelles vous avez droit par mon sang, chaque fois. Dieu est maître de l'histoire. C'est le jour de la fête de la moisson que Dieu décide aussi, 50 jours après, d'accorder le Saint-Esprit pour une autre moisson. Une autre moisson. Ce jour-là, quand Pierre y fait ce discours, dans les gens qui sont là et qui disent « Mais que devrons-nous faire alors? Que ferons-nous alors ?» Il y en a 3000 qui se lèvent. Il y a une phrase de Jésus qui me frappe, on lit quelque part que Jésus dit « Vous ferez des plus grandes œuvres encore que moi ». Et c'est quelque chose qui m'impressionne parce que je me dis « Qu'est-ce qu'on peut faire comme plus grande œuvre que Jésus ?» Dominer les démons, dominer les éléments, dominer la maladie, dominer la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quelque part, quand on y pense bien, mes amis, Jésus n'a jamais converti en une fois 3000 personnes. Là, le jour de la venue du Saint-Esprit, un discours de l'apôtre Pierre qui se lève et 3000 âmes qui se tournent vers le salut en Jésus-Christ. Waouh ! Dieu, maître de l'histoire, notre Pentecôte, c'est un peu ça, comme pour tout le reste. Dieu est aux commandes, mes amis, aux commandes de la vie, aux commandes de l'histoire, aux commandes de votre vie. Si. Vous marchez et que vous voulez marcher avec lui. Quand on parle du Saint-Esprit, on est toujours un petit peu mal à l'aise. Hein? La fois passée encore, en conseil, on parlait d'un épisode particulier avec... vous savez, on entend assez vite... L'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a montré. L'Esprit m'a conduit. Je crois que dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de la Pentecôte, on met un petit peu du tout et du n'importe quoi. Vous, certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous viennent de milieux où le Saint-Esprit a une dimension un peu particulière, où on se trouve dans des salles et où on attend un petit peu que les murs tremblent pour que l'Esprit visite et vienne sur la tête de chacun. Je sais que certains d'entre vous ont gardé des traces de ça, des incompréhensions de ça. Vous savez que les médias aiment bien d'utiliser ça, quand vous regardez les chaînes un peu particulières comme Arte et tout ça. Combien d'émissions on a fait sur ces salles qui sont bondées, où on prie Dieu, on prie l'Esprit de Dieu, et on fait tomber des gens comme des mouches par terre, et puis on fait relever des gens comme des mouches de l'autre côté. Je pense que on essaye de mettre dans le Saint-Esprit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que dit le livre. J'ai souvent l'impression que quand on ne sait plus trop expliquer, alors on met le Saint-Esprit au-dessus du livre, où on met le Saint-Esprit à gauche, à droite du livre. Et l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a montré. Mais non, mes amis, le Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est pas l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a montré, c'est une doctrine, la doctrine du Saint-Esprit. Elle est ici, elle est détaillée. La doctrine du Saint-Esprit, c'est une doctrine comme la doctrine du baptême, comme la doctrine de la nouvelle naissance, comme la doctrine du retour de Jésus-Christ. Si vous voulez savoir qui est l'Esprit de Dieu, regardez dans le livre. Parce qu'en fait, le livre, c'est qui l'illumine ? C'est l'Esprit de Dieu. C'est qui l'a écrit ? C'est l'Esprit de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit ici est inspiré de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a contrôlé tout ce qui est écrit ici. Quand je parlais de la Bible avec ma maman, je lui disais, mais maman, dans le livre, il est écrit que... Elle me disait, non, laisse-moi tranquille avec ça, laisse-moi tranquille. Des histoires d'hommes, des écrits que les hommes ont mis à leur sauce. Je dis, non maman, c'est pas des histoires d'hommes. C'est l'histoire qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Écoute, maman, si Dieu existe, il n'est pas capable de faire un texte et de poser par son Esprit à lui autorité sur ce texte pour que nul, ni personne, ni jamais ne puisse y toucher. Moi qui suis un bête homme, il y a quand même des choses que je suis capable de dire, non, ça c'est à moi, tu n'y touches pas. Et Dieu ne pourrait pas. Calvin disait, si on vous dit des choses de l'Esprit et que vous ne les lisez pas dans la parole de Dieu, si vous ne les lisez pas dans les évangiles, ignorez ces choses. Ignorez-les. Elles sont fausses. D'ailleurs, mes amis, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 de la première épître de Jean, je ne t'ai pas donné ça, c'est juste un verset, je le lis, Jaco, il faut pas aller chercher ça, sauf je le voudrais dans cette traduction-ci. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui, Arte est spécialiste pour nous montrer les faux prophètes du monde. Mais si le livre inspiré de l'Esprit de Dieu dit lui-même, c'est pourquoi éprouver les esprits. Comment tu vas éprouver les esprits? Comment je vais éprouver les esprits? En écoutant Arte? Tu vas éprouver les esprits en regardant ce que le livre te dit du Saint-Esprit, puisque lui-même dit « Attention, faites attention à ce que je dis, éprouvez les esprits ». Ainsi donc, mes amis, ce ne sont pas des expériences, ce n'est pas un vécu, ce n'est pas ce que je sens, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que j'ai entendu dans mon lit que l'Esprit me disait, ou ce que j'ai entendu quelque part que l'Esprit me disait, c'est ce que l'Esprit dit dans le livre. C'est ça qui est l'important. C'est lui qui éclaire le livre. Alors ce jour-là, les disciples devaient attendre. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu parce que je pense que dans l'Écriture, il y a presque nulle part où on doit attendre. Presque nulle part. Moi, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu et que je regarde un passage, chaque fois, c'est « Lève-toi, fais ceci, va aimer l'autre ». Supporte l'autre, encourage l'autre, évangélise, annonce la parole, corrige, enseigne, bouge-toi, avance, marche. C'est toujours comme ça. Je crois que c'est peut-être, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, dans le Nouveau Testament, il me semble que c'est quasi un des seuls passages où il faut attendre. Il faut attendre ce que Jésus avait promis au moment où il quitte la terre, quelque temps avant, ce qu'on appelle l'ascension. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Les disciples attendent. Pour une fois, on leur dit, non, bouge-toi pas, fais rien, reste tranquille, reste assis. Et ils sont là, dans la chambre haute, ils prient ensemble, ils parlent des souvenirs de Jésus, ils parlent du ressuscité, ils parlent de... Mais ils attendent. Ne faites rien. Ils attendent la venue du Saint-Esprit. Alors quoi, le Saint-Esprit n'existait pas avant. C'est ce jour-là. Avant ça, pas de Saint-Esprit. Non. Première page de la Bible, deuxième verset de la Bible. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxième verset. Mais non, l'Esprit de Dieu, il est là depuis toujours, évidemment. Il est Dieu, il est avec Dieu, il est en Christ, il est envoyé par Christ, il est... Ça dépasse notre entendement, mais l'Esprit de Dieu, il est là depuis toujours. J'aime l'Esprit de Dieu se mouvait, se mouvait. J'ai vu quelque part qu'on pouvait traduire par « vibrait ». J'ai vu une traduction comme ça où on disait « l'Esprit de Dieu vibrait au-dessus des eaux ». Et j'ai vu aussi que c'était un terme qu'on utilise comme pour dans la fauconnerie. Quand on chasse avec les faucons, le moment où le faucon va agir, il reste un certain temps sur place, en train de voler d'une certaine manière. Et là, le chasseur, il sait qu'il va se passer quelque chose. C'est le même terme, vibrer, planer au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu vibre depuis toujours, mes amis, depuis le premier jour, depuis le premier verset de l'Écriture, depuis avant la création. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez l'occasion, il y a quelques années, j'ai été très marqué par une convention qu'on avait eue au Christian Center avec un physicien ou un ingénieur, je ne sais plus, avec Tarasenko. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient assisté à ça, si vous vous souvenez de ça. C'était un monsieur qui avait vraiment dit des choses très très intéressantes en parlant de l'Écriture et en associant à ça toute une série de données contemporaines à propos de la physique quantique. Et c'était très très intéressant. Alors, on n'est pas là pour ça ce matin, hein. Si vous voulez, on peut parler de ça après, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Mais quand même, je retiens une expression qu'il utilisait souvent, c'est, il parlait de la danse des atomes, la vibration des atomes. Et c'est vrai que, dans la matière, dans ce que vous touchez sans le voir, dans le nœud le plus profond, infiniment intime, intimement petit de la matière, tous ces éléments, atomes, électrons et autres particules, évoluent les uns par rapport aux autres dans une danse frénétique, dans des circonvolutions que, quand on doit les apprendre à l'université, c'est un petit peu difficile. Mais c'est comme ça, ces choses que vous ne voyez pas, elles vibrent, la danse de la nature, la danse de l'esprit. Dieu est là par son esprit dès le commencement, bien sûr qu'il est là dès le commencement. Et dans toute l'histoire de l'Écriture justement, Dieu n'était pas là par son esprit avec Moïse pour la sortie du peuple d'Égypte, Dieu n'était pas là avec Élie dans son combat contre la reine Jézabel. Dieu n'était pas avec David lorsqu'il terrasse le géant Goliath. Dieu n'est pas avec Marie lorsqu'elle est fécondée. Dieu n'est pas par son esprit avec Jean-Baptiste lorsqu'il va dire au roi Hérode « C'est pas bon que tu vives avec la femme de ton frère et que ça lui coûtera sa tête ». L'Esprit de Dieu n'est pas là tout le temps avec ses hommes et ses femmes? Si. Mais qu'est-ce qui change alors le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Ce qui va changer, c'est que le jour de la Pentecôte, il ne faut pas le prendre non plus, je vous le lis dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 17, il est dit « Le Saint-Esprit est avec vous. Mais il sera en vous. Le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. » Ce qui change, c'est ça. C'est que le Saint-Esprit vient habiter en toi, en moi. Le Saint-Esprit sera avec vous et il sera en vous. C'est ça qui change. Vous savez peut-être que vous lisez les histoires de Moïse, de Élie, de David, les prophéties d'Ésaïe en disant « Waouh !» Mais tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit était là, à côté, devant, là, leur inspirait ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils devaient écrire. C'est ce qu'il devait faire. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Ça, c'est notre Pentecôte. Saint-Esprit en nous. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans l'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe n'ont pas bien compris ça. Ils ont mélangé un petit peu le tout. Vous savez, quand vous lisez les griefs que l'apôtre Paul formule contre l'église de Corinthe et la vie de débauche qu'il y a dans cette église, vous voyez des tas de choses. Vous voyez même que l'apôtre est en train de dire « Mais non, on ne peut pas se saouler pendant qu'on fait la Sainte Cène. Et on ne peut pas non plus faire une orgie pendant qu'on fait la Sainte Cène alors qu'il y a des malheureux là qui sont en train de crever la dalle. » On doit expliquer tout ça. Parce qu'à l'église de Corinthe, on avait compris qu'on était sauvé par Dieu, mais on croyait que la manière de vivre n'avait aucune importance. Que le corps n'avait aucune importance quelque part. Ah, et alors l'apôtre dit, mais il y a quelqu'un chez vous, il vit même avec la femme de son père, quoi. Ça va quand même pas. Et alors l'apôtre Paul va leur dire, ne savez-vous pas, avez-vous oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps n'est plus qu'une enveloppe où habite le Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça, c'est notre Pentecôte. Notre Pentecôte, elle est acquise une fois pour toutes. De même qu'il y a un Noël, une venue de Christ, de même qu'il y a une Pâque, une mort et une résurrection, de même il y a une et une seule Pentecôte. L'Esprit a été envoyé, un point c'est tout. On l'attend plus. On n'invoque pas la puissance de l'Esprit qui vient descendre sur nous pour transformer notre vie. Non, on prie que l'Esprit agisse et fasse son œuvre en nous. Mais l'Esprit ne viendra plus. Il est venu. Il a été envoyé une fois. Et ce que nous faisons maintenant, c'est simplement célébrer un anniversaire. Rien d'autre. Nous avons le Saint-Esprit une fois pour toutes. Nous avons le livre une fois pour toutes. Nous avons le livre illuminé par le Saint-Esprit une fois pour toutes. Pour toutes. Parenthèse. Nous avons le Saint-Esprit, verset 8, il ne faut pas le prendre, je vous le lis dans le livre des Actes au premier chapitre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, une fois pour toutes, pour devenir témoin. Vous serez mes témoins. Est-ce que j'assume? Est-ce que vous assumez votre rôle de témoin? Parce que là, alors, peut-être qu'en ce dimanche de Pentecôte, il est précieux de nous souvenir que oui, au nom de l'Esprit qui est venu habiter en nous, notre rôle de témoin est à remettre en question. Est-ce qu'il vous est arrivé, mes amis, parfois même au sein de votre famille, de vous retrouver dans votre entourage propre avec quelqu'un que vous connaissez depuis des années et auquel, oui, peut-être vous avez fait certaines allusions, vous avez parlé de certaines choses, mais vous n'avez jamais, oh, toujours pour des bonnes raisons, hein, parce qu'on se dit, c'est pas le moment, non, cette personne, ça l'intéresse pas, non, elle écoutera pas, non, elle va s'en foutre. Vous avez des tas de bonnes raisons, mais est-ce qu'il vous est arrivé, comme ça, même au sein de votre famille, d'être dans un environnement où quelqu'un est là, et où vous vous rendez compte que des années après, vous ne lui avez jamais présenté clairement le message de l'Évangile? Ça vous est arrivé? Moi bien. Waouh! Et puis après, vous découvrez des années après que cette personne cherche. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait de mon rôle de témoin? La même chose avec vos cercles d'amis. Hein, ça vous est arrivé chez vos amis? Vous êtes là, mais ah oui, cet ami-là, vous savez bien qu'il est comme ça, et qu'il croit comme ça, et que c'est comme ça. Alors oui, vous faites une petite allusion, oui, vous allez à l'église, oui, vous croyez. Même chose avec eux. Toujours des tas de bonnes raisons pour ne pas, un moment, commencer votre rôle de témoin dans l'annonce de l'Évangile du début à la fin. Ça fait 5 phrases, hein, l'annonce de l'Évangile du début à la fin. Ça, ce mécanisme, comme on le répète, comme on vient encore de le répéter ce matin, ça vous est arrivé? Équipez-vous, équipons-nous, Est-ce que j'ai chez moi des Bibles à donner? Est-ce que j'ai chez moi, je sais pas, un traité à donner? Est-ce que j'ai chez moi des livres spécifiques, hein, comme le livre de Strubel là, qui dit la plaidoyer pour la résurrection du Christ? Est-ce que j'ai ces choses chez moi que si j'en parle, je peux dire à quelqu'un, écoute, j'en parle pas bien, tiens, prends ce livre, lis, on en reparlera après. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que vous avez ça? Ça appartient à notre rôle de témoin. Ça appartient à notre rôle de témoin. Quand je suis venu dans cette église, je suis heureux parce que Yves est là ce matin. Et quand je suis venu dans cette église, j'ai constaté après coup, en venant dans cette église, que trois personnes s'étaient assises sur mon fauteuil de dentisterie avant qu'une de ces personnes ne me parle de l'évangile. Après, quand je suis venu dans cette église, j'ai vu la première personne. Je dis, ah, vous venez ici? Oui, je viens ici. Et puis j'ai vu la deuxième personne. Je dis, ah, vous venez ici? Oui, je viens ici. Mes amis, si Yves n'était pas venu, la troisième personne, pour me dire l'évangile du Christ sur mon fauteuil, enfin, sur le fauteuil. S'il n'était pas venu, qu'est-ce que j'aurais fait avec le premier, avec le deuxième? Rien. Vous rendez compte? Cette petite communauté, c'est 4-5 personnes ici. On est quoi ici? 40 000? Quelque chose comme ça? Je sais pas combien, Outigny-Louvain-la-Neuve. C'est combien, Outigny-Louvain-la-Neuve? Je sais pas, je dirais 40 000, je sais pas. C'est ça? Je sais pas. Ok, allez, 40 000, adjugé. Sur ces 40 000 personnes, de ces quelques personnes ici, trois qui viennent sur mon fauteuil pour leurs dents, il a fallu qu'ils aient mal aux dents. Il a fallu qu'ils décident d'aller chez Pétri. Il a fallu que... Vous vous rendez compte? Notre rôle de témoin. Notre rôle de témoin. Mes amis, si nous ne parlons pas, qui va parler? Qui va parler? Vous vous souvenez sur la série qu'on a faite il y a quelque temps à propos du retour de Jésus-Christ, sur ces quelques prédications, combien j'insistais tout le temps sur le moteur de la prophétie qui s'est emballé. Je pense que les églises chrétiennes ont des sensibilités différentes, et tant mieux. Mais une chose est sûre, c'est que sur la prophétie, toutes les églises chrétiennes sont en accord. La prophétie s'emballe. Il n'y a jamais eu autant de choses qui sont écrites dans les prophéties et qui s'accomplissent maintenant. Si le moteur prophétique s'emballe, c'est que le temps est compté. Si le moteur prophétique s'emballe, c'est que Jésus revient bientôt. Si le moteur prophétique s'emballe, c'est parce que la fin est proche. Le temps du jugement, comme on vient de le chanter encore, est proche. Qui va parler si nous ne parlons pas? Qui va parler? Tout autour de nous, on baigne dans. J'ai vu une publicité l'autre jour. C'était pour une voiture. C'était marqué dessus ange ou démon. Et puis c'était série limitée, série 666. Waouh, c'est chouette. Hein. Tu veux la voiture du diable? T'as la série limitée 666. C'est partout. Vous baignez, nous baignons dans les signes les plus occultes. Vous regardez une salle de concert, tous font les signes de la main, de la bouche, qui sont des signes kabbalistiques qui existent depuis les messes sataniques du début de l'histoire de l'humanité. Ce sont les mêmes signes, les signes du corps nu. Ils le font tous. Pourquoi? Pourquoi le monde où nous vivons fait dans sa globalité, dans la joie, le signe du diable? Ah, c'est un signe, me direz-vous, pas d'importance. Je vois sur mon fauteuil des jeunes femmes qui sont tatouées avec des signes et tout ça. Des fois, ça me fait mal. Je leur dis, madame, vous savez ce que ça veut dire, le signe qui est là sur votre bras? Elles me disent, non, c'est joli, mais c'est un vieux signe. C'est un signe diabolique, en fait. Hein, on célébrait la croix du Christ brisée et jetée dans la boue avec ce signe-là. C'est ça que vous avez sur votre bras, madame. Oh, mais moi, je ne lui donne pas cette signification-là. C'est joli. Ben oui, 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 oui. Vous baignez, nous baignons. Qui va parler? Je ne sais pas si vous avez vu que le festival de Cannes, le jury est en train de vraiment réfléchir, hein, à sponsoriser vraiment ou à nominer un film qui est le plus moche des films pornographiques qu'on pourrait voir n'importe où. Aujourd'hui, le jury de Cannes, le grand festival de Cannes, voilà le film que des bien-pensants, des gens qui savent bien analyser, qui savent bien comprendre ce que c'est un beau film, voilà le film qu'on va sortir. Pire qu'un film pornographique de... Voilà, Festival de Cannes. Etc. vous souvenez, n'est-ce pas, de ce qui a commencé en Angleterre avec, j'ai oublié son nom, ces grands placards qu'on avait mis sur les autobus à Londres d'abord. Dieu n'existe pas. Jouis de ta vie. Et puis, ce n'est pas resté qu'à Londres. Hein. Ça a été en Angleterre, c'était pas là? Oui, hein, c'était pas à Londres. Hein. Puis, c'est pas resté qu'à Londres. C'est allé en Espagne, c'est allé en Allemagne, c'est allé en Italie. Dieu n'existe pas. Jouis de ta vie. Et de petit comme ça que tu es quand tu prends ton bus, jusqu'à vieux que tu es quand tu prends ton bus, tu es devant le placard. Dieu n'existe pas. Jouis de ta vie. Si nous ne parlons pas, qui va parler? À Jérusalem, dans le texte que nous avons lu, lorsque l'Esprit arrive, Pierre se lève, Pierre parle, Pierre dit. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est le même Pierre qui a à peine 50 jours à Pâques, quand on lui disait, mais toi, t'étais aussi avec cet homme-là? Non, non, moi jamais, jamais. Et quand la femme venait et disait, mais si, toi tu étais avec le Nazaréen. Non, 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 j'étais pas avec lui. Et puis quand on lui dit, mais si, on t'a vu avec les disciples du Nazaréen. Non, je connais pas cet homme. C'est le même Pierre. Le même Pierre qui, il y a quelques jours, parce qu'une petite bonne femme lui disait, mais toi aussi tu étais avec le Nazaréen, devait partir en pleurant, le même Pierre se lève et devant tout le monde fait la déclaration que nous avons lue. Est-ce que vous avez vu que c'est le même Pierre qui a à peine quelque temps, quand Jésus a arrêté tout le monde en disant, maintenant mes amis, j'ai quelque chose de grave à vous dire, mais ne soyez pas tristes, il faut que je meure pour que s'accomplisse ce pourquoi je suis venu. C'est le même Pierre qui à ce moment-là dit tout de suite à Jésus, non, tu vas pas mourir, on mourra plutôt à ta place. C'est le même. Et aujourd'hui, jour de la Pentecôte, avec l'Esprit en lui, toute l'Écriture s'illumine, il comprend. Il prend une vieille prophétie du livre de Joël et il dit, mais mes amis, c'est ce que Joël avait écrit qui s'accomplit maintenant. Après, il prend le psaume 110. Vous savez, le psaume 110, j'imagine que les rabbins aujourd'hui dans les synagogues, quand ils lisent le psaume 110, ils doivent pas comprendre. Quand ils disent, mais donc le roi David disait à son Seigneur, mais je dis à mon Seigneur, tu ne connaîtras pas la corruption, tu ne resteras pas dans le séjour des morts. Je ne sais pas comment ils expliquent. Je voudrais bien aller dans une synagogue pour qu'ils m'expliquent comment ils comprennent le psaume 110. Mais ils ne comprennent pas. Lui, à ce moment-là, rempli de l'Esprit, tout est clair, tout s'illumine. David ne parlait pas de lui. Il parlait du roi qui devait venir, le roi envoyé par Dieu, celui qui était sur le vrai trône, le trône de la vie, celui qui devait mourir pour nous, mais qui ne restait pas dans la mort, qui retournait à la droite du Père. On peut prendre Jean au chapitre 16, à partir du verset 7. Je vais lire dans ma traduction parce qu'elle est plus explicite. C'est Jésus qui parle de l'Esprit qui va venir. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice, du jugement de Dieu. Le péché qui réside en ceci, ils ne croient pas en moi. » Je ne sais pas c'est quoi qui est marqué là. Le péché? Ah oui, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ce n'est pas la peine de lire ici si c'est la même chose là-bas. La justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Mission accomplie. J'ai donné, je reprends, j'ai sauvé, j'ai réconcilié, vous ne me verrez plus. Ça, c'est la justice de Dieu. Pardonnez dans le sacrifice de Christ. Pardonnez dans le sacrifice de Dieu qui se donne. Et puis, le jugement qui consiste en ceci. Le dominateur de ce monde, il est déjà jugé. Il est déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom. Il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire. Il révélera ma gloire. Finalement, on parle très peu du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Parce que quel est le rôle du Saint-Esprit ? C'est de tout illuminer, il fait tout, mais pour la gloire de Jésus. Alors, pour terminer, je voudrais juste insister sur une chose. S'il y a quelqu'un parmi nous qui recherche finalement, tout ce qu'on a dit ce matin, c'est simple. Ça se résume à quelques petites étapes. Comme on vient de le lire, le Saint-Esprit dit les choses qui concernent la gloire de Jésus-Christ. Ainsi donc, l'Esprit de Dieu, il essaye sans arrêt, depuis toujours, parce que c'est écrit dans la Bible, il est dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Donc toujours, l'Esprit de Dieu essaye de te convaincre de venir vers Jésus-Christ, de t'approcher de Jésus-Christ, de t'approcher suffisamment près pour que tu arrives à la croix du Christ. Là, quand tu es arrivé à la croix du Christ, le Saint-Esprit attend de toi une décision. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est dans tous les domaines de notre vie. Hein. Tu peux vivre avec une femme ou avec un homme pendant 150 ans. D'abord, tu n'étais pas marié avec elle ou avec lui depuis ta naissance. Et le jour où tu te maries, c'est une décision que tu prends. Donc, jusqu'alors, jusqu'avant, quand tu es né, tu n'étais pas marié avec lui. Maintenant que tu vis avec lui ou avec elle, tu n'es toujours pas marié avec. Mais les jours où tu décides que tu te maries avec et tu es marié femme. Ok. C'est dans tous les processus de décision, ça marche comme ça. Le Saint-Esprit t'amène à la croix et là, il attend ta décision. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te maries avec le Christ ou tu ne te maries pas avec le Christ ? Tu appartiens à l'épouse, Église, corps du Christ ou bien tu n'appartiens pas à l'épouse, Église, corps du Christ ? Lorsque tu réponds à cette interrogation, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui parle de la rencontre avec le Christ se résume à ces quelques phrases, je crois. Adrien, tu me corrigeras après. Hein? À ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et là, commence quelque chose de tout différent. Ça, c'est un processus. Parfois, on entend, si tu deviens chrétien, tu ne peux plus fumer. Si tu deviens chrétien, tu ne peux plus te droguer. Si tu deviens chrétien, tu ne peux plus boire. Non. D'abord, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. D'abord, tu vas te mettre à la croix du Christ. D'abord, tu décides de faire le pacte avec le Christ, le pacte de confiance avec lui. Tu acceptes ce qu'il a fait pour toi. Tu lui demandes pardon. Et à ce moment-là, la grande aventure commence. Alors, petit à petit, l'œuvre de l'Esprit va agir en toi. Et petit à petit, il y a des choses qui vont changer, comme la cigarette, comme l'alcool, comme ceci. Il ne faut pas tout inverser. C'est étape numéro 1 et puis étape numéro 2. Comme ça s'est passé avec Gaston, avec la danse, c'est la quoi ? Ah voilà, comme ça s'est passé avec sa danse, frénétique. Bon, là, exactement ce processus-là. Après, ce qui s'engage, c'est j'aime l'image du papillon qui se transforme. Ralph Challis a écrit un livre là-dessus, Le papillon qui se transforme. Mes amis, une fois que le Saint-Esprit, je te dis, toi peut-être qui cherches, une fois que le Saint-Esprit est rentré en toi, là c'est un processus qui commence. Mais tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas tout voir, tu ne vas pas tout discerner. Quand tu regardes une chrysalide d'un papillon, c'est moche. C'est vraiment moche, tu as envie de mettre ton pied dessus, tu ne vois pas ce qui se passe dedans. Tu ne sais pas là-dedans. Et d'ailleurs, même la chenille ne le sait pas. Est-ce que la chenille, elle sait qu'elle perd tous ses poils ? Est-ce qu'elle sait qu'elle perd ses pattes ? Est-ce qu'elle sait qu'elle perd ses yeux ? Est-ce qu'elle sait qu'elle a des ailes qui poussent dans son dos ? Non, personne n'en sait rien. Mais le processus est en marche. Il ne va pas s'arrêter. Il n'y a aucune chrysalide dans laquelle une chenille a commencé à se transformer à moitié papillon et qu'elle sort avec seulement une aile et une demi-chenille. Il n'y en a pas. Ça va aller jusqu'au bout. Jusqu'au jour où là, la chrysalide, elle casse et jusqu'au jour où le papillon, il sort et le jour où le papillon s'envole. Quelqu'un m'a envoyé dans la semaine un texte, je vous le lis. Peut-être que ça puisse être notre texte de Pentecôte. La Pentecôte inaugure le temps de l'Église. Elle constitue sa date de naissance. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu qui est donné en surabondance. Cet Esprit et te fortifie. Cet Esprit et te console. Cet Esprit et il t'inspire. Cet Esprit, il vivifie. Il te donne la vie, la vraie vie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur de tous les guides, tous les conducteurs spirituels. Nous allons prier. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes devant ta face et encore, à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre, de toutes les promesses qui nous ont été rappelées. Nous voulons, Seigneur, te demander que tu bénisses ton Église, que tu la bénisses chaque jour, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux, toutes celles qui en font partie. Nous voulons te prier, Seigneur, que ton Église soit l'Église de ton Esprit, que ce soit le lieu où ton Esprit règne pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que l'Esprit que tu nous donnes en abondance soit cet Esprit qui nous fortifie, c'est-à-dire qui nous rende plus forts, Seigneur, qui nous console dans la peine et la difficulté, qui nous inspire dans les situations où nous avons des solutions à trouver, des chemins à choisir, des objectifs à atteindre, et qu'il vivifie. Ne nous laisse pas, Seigneur, entraîner par les choses qui tuent, les choses du monde qui tuent, mais par cet Esprit qui vivifie. Que vraiment nous soyons par lui confortés dans une foi qui est une foi vivante et une foi joyeuse. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux et celles qui s'approchent de toi dans cette démarche de simplement se laisser guider par l'Esprit. Esprit du Dieu Tout-Puissant, cette prière est conforme à ta volonté, car tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors, Seigneur, en ce temps de Pentecôte, je te demande encore d'agir puissamment. Ces 3000 âmes qui se sont converties, Seigneur, c'était une réalité de la Pentecôte. Aujourd'hui encore, amen à la conversion, Seigneur. Amen à la conversion. Amen.